Vous écoutez On lit pour vous.
Quand commence l'histoire du Québec? Un texte d'Éric Bédard, paru le 5 novembre 2024 dans La Presse. L'historien Éric Bédard salue l'arrivée en poste de Maxime Pedneau-Jobin à la tête du Musée national de l'histoire du Québec. Et salue au passage l'ouverture dont il fait preuve face à la place que pourraient y occuper les peuples autochtones. Historien et professeur à l'Université TELUC, consultant pour le Musée national de l'histoire du Québec, il vient de faire paraître « Figure marquante de notre histoire, volume 2, Lutter » chez VLB. Lorsque vient le temps d'aborder des sujets sensibles, les universitaires ou les hauts fonctionnaires ne sont pas toujours les plus doués. Les premiers ont parfois tendance à couper les cheveux en quatre, alors que les seconds sont tellement prudents qu'on arrive mal à décrypter ce qu'ils tentent de nous dire. Nouveau PDG du Musée national de l'histoire du Québec, Maxime Pedneau-Jobin n'est ni l'un ni l'autre. C'est pourtant lui qui a su trouver les mots les plus justes lorsqu'on lui a posé une question difficile. Mais quand commence donc l'histoire du Québec? Sa réponse était claire et rassembleuse. Ça commence sur un territoire occupé par des gens qui font partie de notre histoire. Décortiquons un peu. Ça commence. L'histoire du Québec a un début. Elle ne remonte pas à la nuit des temps. Faire des Autochtones les premiers Québécois, ce serait les conscrire dans une aventure historique qu'ils n'ont pas choisie. Leur assigner une identité historique aurait été une forme d'appropriation culturelle. Cette histoire, affirmait Gérard Bouchard en commission parlementaire, elle commence forcément avec l'arrivée des Français. Mais attention, cette histoire commence sur un territoire occupé. Avant l'implantation française, des femmes et des hommes habitaient ce territoire depuis la nuit des temps. C'est là une reconnaissance claire que les Québécois d'aujourd'hui rejettent le principe de la « terra nullius » invoqué par plusieurs puissances coloniales, selon lequel le Nouveau Monde aurait été une terre vierge avant l'arrivée des Européens. Un territoire occupé par des gens. Qui sont ces gens, au juste? Il s'agit évidemment de peuples qui avaient leur langue, leur vision du monde et leur mémoire transmise oralement de génération en génération. Pour éclairer leur cheminement avant l'arrivée des Français, on peut compter sur les anthropologues, les ethno-historiens et les archéologues davantage que sur les historiens qui travaillent à partir de sources écrites. Des nations distinctes du peuple québécois, donc, mais, ajoute tout de suite Maxime Pedneau-Jobin, qui font partie de notre histoire. Sans les Autochtones, l'implantation française aurait été absolument impossible, ou beaucoup plus sanglante qu'elle ne l'a été, du moins à l'époque de la Nouvelle-France. Acteurs de leur propre histoire, les Autochtones ont été des guides précieux et des partenaires de commerce indispensables, comme l'a montré toute une historiographie. Ces alliances des Français et des Canadiens avec les Autochtones vont jouer un rôle déterminant sur le plan économique, politique, militaire, mais aussi culturel. Nul doute qu'on observe un métissage culturel important, lequel va forger un caractère particulier. ces relations vont considérablement se détériorer au 19e siècle avec la loi sur les Indiens et le drame des pensionnats. Le futur musée devra expliquer le contexte de ce drame. Sans nier les tensions, les préjugés et les défis, ces relations se sont améliorées depuis une cinquantaine d'années. Depuis la motion de René Lévesque, adoptée juste avant son retrait de la vie politique, l'État du Québec négocie avec les Autochtones des traités et des accords de nation à nation. Avec cette réponse claire à une question ô combien délicate, Maxime Pedneau-Jobin a montré qu'en plus d'avoir la culture historique nécessaire, il a le doigté qu'il faut pour assumer ses nouvelles fonctions. Sa réponse à la question posée par le journaliste était beaucoup plus pertinente que celle que j'avais hasardée en avril 2024 en distinguant histoire et préhistoire, ce qui a donné lieu à des malentendus. En quelques mots, le nouveau PDG a formulé une réponse respectueuse des Autochtones, mais sans perdre de vue le mandat dont il hérite, présenter dans un musée, avec le concours des meilleurs spécialistes, l'histoire du peuple québécois. Ancien maire de Gatineau, le nouveau PDG du Musée national de l'histoire du Québec, a affronté des crises importantes. L'histoire étant devenue un champ de bataille, il fallait un esprit politique d'expérience, capable de répondre à des questions difficiles, bien que fondamentales. On lui souhaite bonne chance. C'était « Quand commence l'histoire du Québec ?» Un texte d'Éric Bédard, paru le 5 novembre 2024 dans La Presse.
Les classes multiniveaux se répandent. Un texte de Louise Leduc, paru le 8 novembre 2024 dans La Presse. Auparavant et réservé aux écoles de village, les groupes rassemblant des élèves de différents niveaux sont de plus en plus nombreux au Québec. Un choix économique, notamment, qui s'accompagne de défis pour les enseignantes et qui se base sur des études peu nombreuses et datées. Un choix budgétaire avec son lot de défis. Les classes regroupées ne sont plus seulement une réalité de villages dévitalisés. En 2024, des dizaines de milliers d'élèves s'y trouvent. Essentiellement pour des raisons budgétaires ou à cause de la pénurie d'enseignants. Mais attention, plaident des acteurs du réseau, ça ne devrait pas se faire sans précaution. À la suite d'une demande d'accès à l'information, La Presse a compté 2596 classes multiniveaux, première et deuxième année jumelées, par exemple, dans la province. En ville, comme ces classes peuvent compter jusqu'à 26 élèves, on en arrive donc facilement à quelque 40 000 enfants du primaire dans ce type de groupe, d'autant que seuls 57 des 72 organisations scolaires nous ont répondu. Mais au-delà des chiffres, comment cela se vit-il en classe? C'est du sport, lance Marie-Pierre Sirois, qui enseigne dans un village près de Rivière-du-Loup, dans ce que l'on appelait autrefois une école de rang. Son école compte 18 élèves. Dans sa classe, 10 enfants de 4e, 5e et 6e année. Presque une Émilie Bordelot du 21e siècle. Il faut être organisé, dit-elle. Le soir, je suis fatiguée, je pourrais aller enseigner ailleurs, mais je reste par choix. J'aime l'esprit de famille que l'on retrouve à mon école. Il y a si peu d'enfants que, déjà, ceux de la maternelle doivent aller dans le village voisin. C'est précisément pour ce genre de cas qu'on a créé les classes multiniveaux. Pour l'école de Marie-Pierre Sirois, comme pour celle de Priscilla Bello, qui à Portneuf enseigne elle aussi à des élèves de 4e, de 5e et de 6e année. Président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, Richard Bergevin explique que ces classes multiniveaux ont d'abord été l'objet d'un compromis de la part des syndicats pour éviter des fermetures d'écoles de village. Mais aujourd'hui, elles sont beaucoup utilisées pour économiser de l'argent en remplissant les classes au maximum, note M. Bergevin. En ville, des classes bien plus remplies. Marie-Claude, prénom fictif, cette enseignante ayant demandé l'anonymat par crainte de représailles de son centre de service scolaire pour avoir parlé à un média, a longtemps enseigné dans ses classes à Montréal. Elle dit avoir déchanté. À une certaine époque, dit-elle, ça me permettait d'avoir de plus petits groupes que je suivais 2 années consécutives, ce qui me plaisait beaucoup. Comme les classes sont maintenant remplies au maximum, je ne me porte plus volontaire. Fini les petits groupes avec des enfants triés sur le volet. Les classes multiniveaux, souvent remplies en ville, peuvent aujourd'hui compter des enfants autistes, dyslexiques ou présentant des troubles de comportement. Le Centre de services scolaires de Montréal compte 249 groupes multiniveaux cette année. Celui de Laval, 88. Le Centre de services scolaires de la Capitale, à Québec, 58. Au Centre de services scolaires Les Sommets, dans les cantons de l'Est, pas moins de 29 % des groupes sont multiniveaux. Directeur général adjoint Serge Dion l'explique par d'inévitables compromis. On pourrait décider de faire de plus petites classes, explique-t-il, mais les subventions ne sont pas un bar ouvert. Il faudra couper ailleurs dans le nombre de professionnels, par exemple, psychoéducateurs, orthopédagogues. Présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-Saint-Pierre s'inquiète que ces classes soient devenues un réflexe, un choix budgétaire. Mais est-ce souhaitable au niveau pédagogique? Madame Beauvais-Saint-Pierre s'inquiète notamment de voir des classes composées d'enfants de première et deuxième année à ce moment crucial de l'apprentissage de la lecture. Les chevauchements de cycles à éviter. L'école primaire est organisée en cycles. Ainsi, la deuxième année est une révision de la première, la quatrième une révision de la troisième et la sixième une révision de la cinquième. Madame Beauvais-Saint-Pierre voit les regroupements au sein d'un même cycle comme un moindre mal dans le contexte actuel. Par contre, selon elle, il faudrait éviter de former des classes multiniveaux avec chevauchement de cycles, composés d'élèves de deuxième et de troisième ou de quatrième et de cinquième année, qui ont des notions totalement distinctes à l'étude. Vous écoutez « Les classes multiniveaux se répandent », un texte de Louise Leduc paru le 8 novembre 2024 dans la presse. Yves-Michel Volsy, directeur général du Centre de services scolaires de Laval, le pense aussi. Mais à Laval comme ailleurs, comme en font foi les données obtenues à la suite de notre demande d'accès à l'information, ces chevauchements de cycles sont monnaie courante. M. Volsy attribue la multiplication des classes multiniveaux au nécessaire respect des conventions collectives qui imposent des limites au nombre d'enfants par classe. Quand une classe compte trop d'élèves, le Centre de services scolaires de Laval dit privilégier la formation d'une classe multiniveau plutôt que le transfert d'enfants dans une autre école. D'autant, souligne M. Volsy, que les écoles voisines sont souvent pleines et que des enfants risqueraient d'être déplacés loin de leur quartier. Mère de 4 enfants, dont 2 ont fréquenté des groupes multiniveaux, Lisa Théeb, qui habite à Montréal, a vécu des années où ça se passait bien, mais une autre où ça a été plus chaotique. Même dans les meilleurs scénarios, comme le lui a dit sa fille, ça fait du bruit. C'est difficile de rester concentré en classe quand le travail personnel doit être fait pendant que l'enseignante transmet sa matière aux élèves d'un autre niveau. Beaucoup de travail pour les enseignantes. Ce sur quoi tous s'entendent, c'est qu'enseigner dans des classes multiniveaux, c'est beaucoup de travail. Quand les enseignantes peuvent choisir une classe ordinaire, elles le font, observe Julie Bossé, présidente du syndicat de l'enseignement de la région de Laval. Ce sont donc plus souvent les enseignantes en début de carrière qui atterrissent dans une classe multiniveau. Et ce, sans prime. Certaines conventions collectives prévoient tout au plus quelques jours additionnels de planification ou un budget d'achat de matériel adapté. Priscilla Bello, l'enseignante de Portneuf, le dit sans détour. Elle adore sa classe multiniveau. Le petit nombre d'élèves me permet de consacrer plus de temps à chacun. Mais j'ai quand même 3 programmes distincts à préparer. Études vieilles de 20 ans à l'appui. Sur leur site Internet, plusieurs écoles primaires cherchent à rassurer des parents souvent inquiets et surpris que leur enfant se trouve dans une classe multi-âge. Mais le fait demeure. La recherche sur le sujet, particulièrement au Québec, est rare et commence à dater sérieusement. Sur le site Internet de l'école Louis Collin, au Centre de services scolaires de Montréal, CSSDM, comme sur d'autres sites d'école, on mentionne 3 études dont l'une européenne remonte à 1995. En entrevue, Nicole Monet, professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC, confirme qu'à sa connaissance, aucune étude portant sur la réussite des élèves dans les classes multiniveaux n'a été menée au pays depuis 2003. Cela fait plus de 20 ans. À une époque où on retrouvait essentiellement ces classes multiniveaux dans des écoles alternatives ou dans des régions peu peuplées du Québec. Ces études reflètent-elles toujours la réalité d'aujourd'hui, celle de classes très remplies en milieu urbain? Il faut se poser la question, insiste Nicole Monet, surtout dans la mesure où les élèves ont des besoins plus importants qu'avant, notamment depuis la pandémie. La professeure demeure néanmoins convaincue qu'un des effets indéniables des classes multi-âges, c'est qu'elles favorisent de meilleures habitudes relationnelles et sociales. Pour le reste, en parcourant les grandes recherches sur la réussite des enfants, difficile de trouver un consensus. L'enseignement d'abord. En 1996, les chercheurs DeWayne A. Mason et Robert B. Burns contestaient les travaux du Néerlandais Simon Winman, qui écrivait que rien ne lui permettait de conclure à de moins bons apprentissages dans des classes multiniveaux. Mason et Burns estimaient que Winman avait sous-estimé l'effet de variables importantes, notamment que ce sont souvent les élèves les plus forts qui sont dirigés dans ces classes et que c'est surtout ce qui explique les bonnes moyennes dans ces groupes. Pour sa part, Winman persiste et signe. Il n'y a pas de preuves empiriques démontrant que les classes multi-âge ou multiniveau nuisent aux apprentissages. Avant cela, 3 autres équipes de chercheurs ont assuré que ce qui détermine plus que le reste la réussite scolaire, c'est la qualité de l'enseignement. Wang, Hertel et Wahlberg, 1993, Brophy et Good, 1986, Rosenshine et Stevens, 1986. Mais il faut que l'enseignante tienne le coup. Car comme l'écrivait en 2013 un groupe de chercheurs de l'UQAC, dont Nicole Monet dans la Revue canadienne de l'éducation, il semble que la planification demeure un défi de taille pour les enseignants des classes multi-âge. Enfin, selon Mme Monet, il n'est pas souhaitable que les meilleurs élèves ou les plus motivés soient tous dirigés vers des classes multiniveau quand on en crée. Car si on le fait, cela brise l'équilibre de l'autre classe, avec une enseignante qui hérite d'un nombre anormalement élevé d'enfants présentant des besoins particuliers. C'était « Les classes multiniveau se répandent », un texte de Louise Leduc paru le 8 novembre 2024 dans « La Presse ».
Éducation détraquée, la détestable épreuve de l'inscription au secondaire. un texte de Josiane Cossette paru le 30 mars 2024 dans Le Devoir. Je ne m'en cache pas, j'ai trouvé le processus d'inscription au secondaire détestable du début à la fin. J'en ai maudit chaque seconde, notamment parce que je nous sentais pris au piège du système à trois vitesses, où les iniquités réelles jumelées aux stéréotypes dévalorisent immensément les écoles publiques. Et je ne parle même pas du fameux palmarès. Magasiner son école. Ma fille de maintenant 12 ans fréquente depuis toujours l'école primaire de quartier, située à un coin de rue de la maison. Un milieu stimulant, doublé d'une communauté tissée très serrée. Depuis la maternelle, les amitiés développées à l'école se poursuivent au parc, à la patinoire, dans nos ruelles. Les parents des enfants deviennent amis à leur tour. De sacrées belles gangs se forment. Puis vient le choix de l'école secondaire qui nous oblige à un magasinage dès la cinquième année et qui disséminera tout ce beau monde à la base privilégiée, aux quatre coins de la ville. On a pris ça mollo. Deux visites au public, celle offrant un programme particulier en art dramatique, puis celle du quartier, avec un programme d'éducation intermédiaire, profil international, PEI. Toutes deux pas trop loin de la maison. Gros coup de cœur pour la première, qui correspond en tout point au profil de ma fille. Elle ressort enchantée de sa visite, moi aussi. Mais il ne faut pas trop s'emballer. Il faudra écrire une lettre de motivation, participer à un atelier audition-entrevue de sélection qui, si on le réussit, nous placera dans un bassin de pige. C'est le hasard qui aura le dernier mot. Cela prend donc un plan B. Les chances sont grandes qu'elle soit admise au PEI de l'école de quartier. On respire. Mais d'un coup que... On visite aussi une école privée qui fera dire à mon enfant « Mais maman, c'est trop riche, trop beau, ça n'a pas aucun sens qu'il puisse avoir tout ça quand les toilettes de mon école sont dégueulasses et qu'on n'a même pas de vrai gymnase. » Remarque lucide à laquelle je ne peux rien opposer. On garde tout cela en tête, puis la sixième année arrive. C'est là que ça se corse. Fortuitement, des discussions viennent à nos oreilles. Nous, c'est PSNM, Regina, Notre-Dame, Jean-Eudes ou Mont-Saint-Louis. On a juste un enfant, c'est sûr que ce sera le privé. C'est comme un hôtel, pourquoi se contenter d'un motel, lire le public, quand on peut s'offrir un 5 étoiles? Nous, on prend ça relax. Super, nous aussi, on a visité PSNM, Mont-Saint-Louis et Regina l'an dernier, on est préinscrite aux trois endroits et là, on va regarder du côté de Face, de Ville-Marie et de Jeanne Mance. Relax, vous disiez. Et c'est ainsi qu'au détour de conversation, on commence à douter, à stresser, voire à paniquer. A-t-on vraiment tout fait pour offrir un milieu épanouissant à notre enfant? Conflit de valeurs. Et hop! On ajoute quelques visites de dernière minute à notre agenda. Une école privée au-dessus de nos moyens avec une riche vie culturelle en parascolaire à 50 minutes d'autobus de la maison et une école publique spécialisée en art qui, elle aussi, fonctionne par pige et nécessite d'envoyer une trallée de formulaires et de documents dans l'ordre, s'il vous plaît, ce qui écarte d'emblée des familles moins aptes à harnacher les exigences bureaucratiques pointues. Cerise sur la coupe glacée qui, à ce stade-ci, nous donne la nausée. Inscription à l'atelier d'admission de l'école perçue trop belle. Qui sait, le bonheur s'y trouve peut-être? Rendu là, l'inscription au secondaire est devenue notre unique sujet de conversation entre parents. On navigue parmi les exigences pas toujours bien formulées des officines scolaires, on remplit des documents en papier et en numérique, on excave les bulletins, certificats de naissance, preuves d'adresse, les envoie dans le bon format, on relit les lettres de motivation, prépare les auditions, alouette, on sera plumé. L'insomnie nous assaille. On se ramasse à faire exactement l'inverse de ce qu'on voulait faire en étirant l'élastique de nos valeurs, quitte à ce qu'il nous pète en plein visage parce que notre enfant mérite bien ça. Les réponses entrent au compte-gouttes. La première, liste d'attente d'une école privée, mais avec quelques appels bien placés et des notes au-dessus de la moyenne, nous dit-on, tout demeure possible. La deuxième, acceptation à l'école privée jugée trop belle. L'atelier était finalement super sympa, elle sera vraiment à considérer, même si notre budget est plus ou moins d'accord. La troisième, acceptation à l'école avec programme particulier en théâtre. C'était le premier choix, c'est la fête. Même si on s'était préparé au pire, la pige pouvant laisser de côté même les élèves les plus motivés. La suite importe peu, la tension retombe, épuisé que je suis, un virus finit de m'achever. Quelle solution? Vous l'aurez sans doute remarqué, dans notre course au secondaire, il n'était question que de deux vitesses. Les programmes particuliers au public et le privé, résultante d'une pression induite par les pairs. Le public, régulier, n'était pas dans notre radar. Avant tout cela, j'avais écouté l'excellent balado « Chacun sa classe » de Karine Dubois, qui recoupe énormément l'expérience décrite ci-dessus. Il y a entre autres question du système scolaire finlandais où l'on est tenu de s'inscrire à l'école secondaire publique la plus proche de chez soi. Fréquentation, livres, repas, tout est gratuit. Interrogé à savoir si des familles cherchaient à déménager pour fréquenter une école précise, un parent répondait que non, en riant. Il n'y a pas de marché scolaire en Finlande. Toutes les écoles s'équivalent, peuplées d'ados de milieux socio-économiques diversifiés, avec et sans diagnostic, avec et sans plan d'intervention. Et si c'était l'une des clés pour le système d'éducation québécois? C'est notamment ce que croit le collectif École Ensemble, qui a creusé la question et analysé exhaustivement une quantité impressionnante de variables. Le système scolaire ne devrait-il pas aplanir les iniquités plutôt que les creuser? Réflexion à suivre, dans un second texte. C'était l'éducation détraquée, la détestable épreuve de l'inscription au secondaire, un texte de Josiane Cossette paru le 30 mars 2024 dans Le Devoir.